Europan, le catalyseur. Observez le passé, explorez le présent pour préparer l'avenir. Trois épisodes radiophoniques pour écouter et découvrir l'Europan visionnaire, l'Europan mentor et le réseau Europan. Cet événement radiophonique s'inscrit dans la programmation du Forum des 30 ans d'Europan. Il est accueilli par la plateforme de la création architecturale de la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris. Avec l'atelier Java à la réalisation, Arnaud Paillard à l'animation et Guillaume Legret à la technique. Une émission diffusée en direct sur Radio Campus Paris, Radio Campus Orléans et Studio Zef à Blois.
Maybe we were bringing on some new angles to how to engage and how to run workshops. That was new for the area, for Marseille at least.
Il y a quand même cette idée d'avoir être un peu, de pressentir des choses qui vont arriver, qui sont nécessaires.
C'est un endroit formidable où on peut gagner un concours en répondant à côté de la question et en disant même la question était mal posée, si elle a été mieux posée, voilà la réponse. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous pouvez faire ça. Et c'est une réalité, ça. Ça, c'est une réalité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce plateau radio consacré au concours d'architecture Europan qui fête cette année ses 30 ans. Alors je vous rappelle nous sommes en direct à la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris et nous sommes en direct sur Radio Campus Paris sur 93.9, sur Radio Campus Orléans sur 88.3 et sur Studio Zef à Blois sur 91.10. Alors un mot d'abord sur ce concours, sur le concours Europan, même si je suis sûr on aura l'occasion d'y revenir au cours de nos échanges cet après-midi. Europan, c'est un concours d'architecture un peu particulier qui propose, tous les deux ans, plusieurs dizaines de sites dans une vingtaine de pays en Europe et qui s'adresse majoritairement à des jeunes architectes urbanistes, c'est-à-dire des professionnels de moins de 40 ans. Dans les faits, ce sont souvent des architectes qui sortent de l'école, qui se lancent dans l'aventure et qui peuvent trouver là l'occasion de faire leurs premières armes, en fait, d'accéder à la commande architecturale, de développer des concepts qui leur serviront ensuite à se faire une place et un nom. Cet après-midi, un cycle de trois échanges sur Radio Campus avec ceux qui ont participé à Europan depuis sa création, la parole des experts d'abord, puis des lauréats, ceux qui ont gagné il y a longtemps, d'autres qui ont remporté le concours plus récemment, ceux qui ont choisi les sites, les collectivités et ceux qui ont porté la démarche. Bref, tous ceux qui ont fait de ce concours un catalyseur. Alors un catalyseur, c'est ce qui permet une réaction de se produire, c'est la levure du boulanger qui permet au pain de se lever, c'est le mélange, le cocktail qui rassemble les ingrédients qui vont rendre possibles les projets urbains malgré la complexité des sites. Alors un bilan rapide de Europan a été lancé en 88, et avec un bilan déjà impressionnant, plus de 23 000 équipes d'architectes européens qui ont participé avec plus de 7 500 sites dans plus de 550 villes, tout ça dans 30 pays. Rien que pour la France, ce sont 85 sites dans 67 villes, plus de 4000 projets rendus et 170 projets sélectionnés. Alors on l'a dit, Europan, ça existe depuis 30 ans. Ça existe dans plusieurs pays en Europe et le concours, donc c'est un concours lancé tous les deux ans avec un thème, puis une recherche de sites à mettre, des sites qui sont un peu mis dans le pot commun du concours. Aujourd'hui, ces sites ont désormais une échelle assez large, mais ça n'a pas toujours été le cas. Europan, à la base, s'est inspiré en fait d'un programme d'architecture français, le PAN, le Programme d'architecture nouvelle. C'est un concours d'architecture qui avait été créé au tout début des années 70 pour un peu rompre avec l'architecture de la reconstruction, de l'après-guerre, et réfléchir déjà à l'époque à de nouvelles formes d'habiter. En 1988, le PAN devient Europan, et s'élargit à l'Europe, pour partager les innovations, les réseaux des différentes pensées architecturales et urbaines. Europan, c'est particulier aujourd'hui car il s'agit d'un concours de propositions et d'idées, un concours qui organise en fait la rencontre entre de jeunes équipes pluridisciplinaires et des collectivités autour d'un sujet commun. Mais c'est vraiment ce qui en fait sa spécificité. Ce n'est pas qu'un concours d'idées, on n'est pas là juste pour proposer des concepts, puisqu'il est possible de construire, ça prend un peu de temps, mais c'est possible de construire des projets estampillés Europan. Alors pour ce premier plateau, on va parler du côté visionnaire du Europan, de son côté laboratoire. Pour ça, j'ai autour de moi Agnès Jacquin, qui est paysagiste, membre du collectif Carlos, et qui a été collectif qui a été lauréat de la 14e édition d'Europan, donc la dernière, sur le thème de la ville productive. Et le collectif Carlos a été lauréat à Amiens. Bonjour Agnès, merci d'être avec nous cet après-midi sur les ondes de Radio Campus. Enfin, nous avons aussi Christine Bulot. Christine Bulot, vous êtes directrice générale des services de la ville de Fos, dans le Val d'Oise. Ville qui a proposé un site lors de la 12e édition d'Europan sur le thème de la ville adaptable. Et nous serons rejoints en cours d'émission par Isabelle Moulin, qui est secrétaire générale d'Europan France et qui reviendra avec nous sur l'esprit et un peu la genèse du concours. Avant de passer la parole à nos invités, je tiens juste à préciser qu'on va garder un petit moment en fin de nos échanges pour prendre les questions des auditeurs et du public. Et donc n'hésitez pas à poser vos questions directement sur Twitter sur le hashtag Radio Europan, hashtag RADIOEUROPAN. Alors, on a dit qu'Europan était visionnaire, que ça a été un laboratoire d'idées, de concepts pour l'architecture. Moi, j'aimerais revenir d'abord, Christine Bulot, sur la vision des collectivités. Qu'est-ce que vous apporte un concours d'idées à une collectivité qui n'a pas les mêmes temporalités qu'un concours d'architecture? Une collectivité, il faut faire un projet, il faut revitaliser un centre urbain. Pourquoi s'engager dans cette démarche?
Bonjour.
Bonjour.
Donc à Fos, en fait, la ville de Fos est constituée de deux grandes parties. D'un côté, une ville contemporaine qui s'est développée surtout dans les années 70-80. Et de l'autre côté, un village historique avec une église classée du XIe siècle et qui est le berceau d'un pôle très riche en termes d'archéologie. En termes de patrimoine. À la fois patrimoine historique et patrimoine naturel. Or, paradoxalement, ce village historique, depuis quelques années, se paupérise de façon importante. Et,
parce que je me permets de vous couper, mais Fos, en effet, c'est une ville qui est située dans le nord du Val d'Oise. C'est vraiment l'interface entre la métropole parisienne et son arrière-pays un peu plus rural du nord de la France, en fait.
Tout à fait, et dans la zone aéroportuaire
de Roissy-Charles de Gaulle.
Donc, dans une zone à enjeux économiques très forts et ouverte sur le monde, avec un secteur, un village historique très lié à la question, à la ruralité, et où se posait la question pour la ville, comment faire revivre ce village? Et c'est d'ailleurs une question qui a amené l'agglomération Roissy-Part-de-France aux côtés de la ville de Fos dans ce concours, puisque sur l'ensemble du territoire se posait la question de la ruralité. Mais aussi.
On parlait de la vision. Qu'est-ce que vous attendiez des réponses au concours? Quelle vision vous aviez et est-ce que ça a été en décalage par rapport aux réponses qu'on vous a proposées?
Alors clairement, je pense que l'entrée dans la dynamique du concours, c'était aussi la dimension d'exploration, la dimension de laboratoire et d'expérimentation, et d'ouvrir sur des questions peut-être nouvelles pour nous autour de ces questions de l'écologie, du lien entre l'urbanisme et la ruralité, et la place aussi de la nature et de l'agriculture.
Donc c'est comment en fait articuler ces deux dimensions propres à ce paysage, à cette ville pardon, d'interface entre urbanité et ruralité. Vous attendiez des réponses dans ce sens-là en fait.
Tout à fait. Et puis une autre question, l'histoire et la ville de demain. Toute cette question entre ville contemporaine et histoire, voilà, c'est les deux. Et comment aussi développer sur ce type de secteur de nouvelles activités qui puisse faire vivre justement cette ville de demain.
Oui, c'est ce qu'on écoutait en introduction de nos échanges, de ce plateau, Chris Younes d'Europan qui disait, il y a cette idée de pressentir les choses en fait, de savoir un peu qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui attend la ville de demain. Isabelle Moulin nous a rejoint. Isabelle Moulin, je rappelle, vous êtes secrétaire générale d'Europan France. Bonjour Isabelle, merci de nous rejoindre.
Bonjour, bonjour à tous et excusez-moi de...
Pas de problème, merci de nous rejoindre autour de cette table ronde. Isabelle Moulin, je voulais vous demander, cette table ronde elle s'appelle Europan Visionnaire. Et moi je voulais savoir quelle vision vous avez aujourd'hui, quelle vision vous avez aujourd'hui de ce concours? Comment vous voyez ce concours dans 5 ans? Est-ce qu'il va continuer à être comme ça? Est-ce qu'il va continuer à servir de laboratoire à la ville de demain ou...
Écoutez, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas, puisque nous suivons au fil du temps les évolutions aussi sociétales. Je crois que ça, c'est très important. on a beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'est un concours, on est une sorte de, parfois éclaireur, mais aussi parfois suiveur, c'est-à-dire qu'en fait,
c'est-à-dire
on est
suiveur.
À la fois bah, suiveur, parce vous, que on
vous
observe ce qui se passe.
Vous observez ce qui se passe
et
vous...
On observe ce qui se passe et on développe à la fois des thématiques et on choisit parfois, on repère des sites aussi qui soient propices aussi.
Alors, c'est cette question des sites, on y reviendra, mais j'aimerais bien déjà qu'on s'appesantisse un peu sur la question. Comment on choisit les sites européens? Comment est-ce que c'est des sites qui sont... Est-ce que on ne va jamais choisir des sites en plein milieu d'une métropole. C'est souvent des sites qui font preuve d'une certaine complexité. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Est-ce qu'il y a une manière... Est-ce qu'il y a des bons sites européens?
Tous les sites européens sont des bons sites européens.
D'accord. Mais est-ce qu'on peut tirer une généralité?
Oui. Après, la différence est l'investissement des élus, puisque Europan, en fait, le génome d'Europan, ce sont des élus. Et quand un élu veut mener un site, veut développer un concours, veut développer des suites après le concours, eh bien, il y arrive. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des difficultés, parce que... On l'a vu dans notamment le film qu'on a projeté hier,
qui est un film un peu bilan sur les 30 ans d'Europan.
Alors, c'est pas un bilan, mais donc grâce aux subventions du ministère, on a pu réaliser ce film, ministère de la Culture. Et c'est un film qui nous avons choisi, et puis surtout nous avons lancé un appel à candidature, et une équipe a répondu justement en disant mais nous, ce qui nous intéresserait, ce serait de faire un film qui retrace à travers quelques expériences, en fait...
L'essence un peu du concours.
L'essence du concours, et puis surtout aussi sa méthodologie. Et c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire en choisissant les différents exemples, on a pu revisiter les origines d'Europan, c'est-à-dire question du logement qui était clairement posée au début.
C'est ce que je disais en introduction de cette table ronde, c'est à la base c'est le programme d'architecture nouvelle, c'est le PAN. Europan vient du PAN, c'est ça?
Europan vient du PAN. Et le PAN existe depuis 1973 ou 1974, puisqu'il a été vraiment lancé à la première crise pétrolière. Enfin, ça veut tout dire, c'est-à-dire qu'on arrêtait la grande programmation.
On cherchait d'autres formes urbaines à cette époque.
On arrêtait de démolir les villes. Ça, je pense que... Enfin, à peu près...
On s'est rendu compte qu'il fallait pas jeter le bébé avec l'eau du bain à cette époque-là.
Voilà, on rasait plus des quartiers anciens pour construire des cités. L'exemple étant, par exemple, à Paris, Place des Fêtes. Place des Fêtes, oui. C'est fait sur une colline où il y avait que des jardins et des petites maisons. Enfin,
pour ceux qui ne connaissent pas, aujourd'hui, Place des Fêtes, c'est un quartier de Paris qui est quand même marqué par une architecture très verticale de bars et de tours, avec une grande place au milieu un peu minérale.
Voilà, qui est devenu intéressant, parce qu'en fait, ce qui fait que la ville devient intéressante, même si elle a été fondée sur des concept critiquable, en tout cas, c'est simplement que ça fait 40 ans, 50 ans qu'il y a des gens qui y vivent. Donc, c'est ça qui rend la ville vivante. Il ne faut pas oublier que la ville, elle est vivante parce qu'il y a des habitants. Et même dans les formes urbaines les plus dystopiques,
Il reste des habitants, oui.
Il y a des habitants. Voilà.
Donc, Et juste, on a parlé de méthodologie. Est-ce qu'on peut revenir avec vous rapidement sur la méthodologie? Parce que ce n'est pas un concours comme les autres d'architecture européen, c'est un concours... Un peu en deux parties, si je me trompe pas.
Tout à fait. Alors,
est-ce que vous pouvez expliquer pour les auditeurs comment ça se passe?
Une session, c'est 2 ans, c'est-à-dire que 2 années consécutives. Et la première année, on prépare le concours.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on va repérer des sites, on va démarcher des sites de projet auprès des élus et des services des villes et des directions de services des villes. Et puis aussi nous
avons
des partenaires.
Donc c'est Europan qui vient chercher ces sites, en fait, qui fait la tournée des élus.
Tout à fait, mais en 30 ans, nous avons des fidèles à Europan
qui reviennent
régulièrement, nous recontactent. Et puis, de bouche à oreille, on a connaissance du concours comme étant un bon moyen de mettre en œuvre d'autres façons de faire, par exemple.
Donc on sélectionne les sites la première année, ensuite.
Voilà, ensuite, alors en même temps, en parallèle avec l'Europe, c'est-à-dire que c'est tous les pays d'Europe qui font ça simultanément. En parallèle, on a des réunions européennes où on discute aussi des thèmes. En général, le thème est choisi dès le début de la session.
Avant la sélection des sites, on choisit un thème.
Oui, puisqu'on s'en sert pour sélectionner les sites et pour les démarcher. Et donc tout ça est glissant, en fait. Tout ça est comme une sorte de roue aussi. On parlait de l'éternelle jeunesse à propos du film. C'est aussi l'éternel recommencement, mais continuité. C'est-à-dire recommencer en continuant, en fait. Et ensuite, une fois qu'on a les sites, qu'on a construit un dossier de site, puisque en partenariat avec la collectivité, on va, nous, Europan, avec des experts de site, peaufiner le propos, c'est-à-dire qu'on va adapter le thème sur chaque site.
D'accord.
Savoir. À la fois, on fait
on décline le thème
du théorique. Oui. Voilà, à la fois, on fait du théorique, de la recherche. De
c'est pas juste
etc.
un thème libre en mode en disant vous voilà votre thème, vous avez 2 heures et vous avez 2 ans pour le coup et faites-nous un beau projet.
C'est, y a quand non, même, pas du tout.
Il
voilà.
y a une voilà. construction d'un discours par rapport au site.
Absolument. Et ça, on le co-construit avec la collectivité. Avec la c'est quand même très important puisque il n'y a pas un dossier de site qui part au concours sans qu'il y ait une validation
évidemment, oui.
de la part des porteurs du site. Puisque l'idée, c'est de commencer. Et alors, entre-temps, il y a un forum européen. Souvent, lors de ce forum, on fait connaissance. On dîne ensemble, on discute ensemble, on va participer à des tables rondes, etc. Et puis, on va construire cette amitié européenne et française, hein, puisque chaque secret. Europan est organisé en secrétariats nationaux, en fait. Hein,
vous êtes secrétaire général d'Europan France.
Voilà. Exactement. Donc, et c'est ainsi qu'on va aller co-construire tous ensemble aussi un peu les sujets, les améliorer, puisque aussi pendant les forums, parfois, évidemment, on prend connaissance des autres sites européens. On peut réaliser qu'il y a un site qui ressemble. Un des sites français,
déjà...
parce que l'idée, alors c'est difficile, il y a la barrière de la langue aussi, hein, c'est pas si simple que ça, mais quand même, on arrive à créer ce forum, justement.
Ce forum d'idées, c'était ce catalyseur, comme ça qu'on a appelé nos échanges d'après-midi.
Alors,
deuxième année, vous lancez le concours auprès des jeunes professionnels.
Ouais, voilà.
D'accord.
On lance le concours, on organise des visites de sites, on filme les visites de sites maintenant.
Oui.
On essaie, et même la question se posait, pourquoi pas faire aussi un atelier de discussion à l'occasion de la visite de site. Déjà, un peu
d'accord. commencer le travail d'accord.
sur des méthodes de travail.
Et là, ils ont combien de temps le concours est lancé. De combien de temps disposent ces jeunes professionnels pour répondre à la question? Parce que c'est un peu ça.
Alors, eh bien, cette année, on a rajouté un mois.
C'est un mois, d'accord.
Mais on a 5 mois, hein, puisque ça commence en mars, avril, mai, juin, juillet. Donc 5 mois.
Et ensuite, alors c'est ça qui est intéressant, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'au terme de ce concours, 3 équipes sont sélectionnées, si je ne me trompe pas.
Exactement.
Il y a un lauréat...
En France. Il y a des pays où il y a parfois 1 ou 2 équipes sélectionnées.
Okay.
En France, on sélectionne France, systématiquement
3 équipes. Et après, la collectivité a le choix de relancer un concours avec ces 3, c'est un marché public en fait, d'architecture, une commande
absolument,
publique
parce
avec
que,
ces 3 présélectionnés.
Oui,
le droit
fait.
Français permet ça.
Oui, nous sommes un programme du PUCA,
voilà.
Le plan urbanisme, construction, architecture, qui nous permet de bénéficier de l'article 97 du Code
c'est
des
ça.
Marchés publics.
Bon, c'est un peu technique, mais c'est très important. Ça permet de vous lancer
absolument.
Un marché public, mais qui n'est pas ouvert à tout le monde. Et
absolument.
C'est pas les architectes qui vont gagner, c'est réduit. À ces 3 lauréats qui ont remporté la première
voilà.
phase.
Alors réduit ou augmenté.
D'accord.
En termes de possibilités pour les
oui.
équipes sélectionnées.
Et là, on passe vraiment dans le vif
voilà.
du sujet. Après.
Voilà. À Besançon, par exemple.
D'accord.
Besançon,
okay.
la collectivité vient de relancer. Alors, pendant toute la période du concours européen, Besançon, c'est Europan 14.
Oui.
Pendant toute la période du concours, l'objet, c'était aussi de mettre des partenaires territoriaux autour de la table. L'université, par exemple, un syndicat d'entreprise,
oui.
Etc. Et après, donc, tout le monde a été d'accord. Après avoir déroulé un workshop, après les résultats, eh bien, la collectivité a été d'accord pour consulter les 3 équipes sélectionnées au concours, puisqu'elles avaient pris connaissance de leurs propos et de leur façon de travailler. Et donc, c'est ainsi que l'équipe de paysagistes qui s'appelle... Altitude 35 a remporté un marché très important.
Et avec qui on échangera au cours d'une deuxième table ronde dans l'après-midi.
Absolument.
On parle de vision. Alors Agnès Jacquin, on ne vous a pas encore entendu. Je voulais vous poser la question. On a entendu la collectivité, on a entendu les organisateurs du concours. Vous avez été lauréate du concours de Europan 14.
C'est ça.
Sur la ville productive. Vous avez été lauréate à Amiens. Et vous êtes paysagiste. Et alors, moi, je voulais avoir un peu la vision du paysagiste, parce qu'à la base, c'est un concours d'architecture. Et là, on est sur... vous avez été lauréat en proposant une vision, en fait, du paysage. Donc, j'aimerais bien avoir un peu la vision du paysagiste sur ce concours d'architecture.
Bien sûr, donc moi en fait, je fais partie d'un collectif de 7 membres qui sont architectes, urbanistes et paysagistes. Et notre parti pris depuis le début, c'est de dire que Europa ne pose pas uniquement une question soit d'architecture ou bien de paysage, mais pose la question de la ville.
Du territoire.
Du territoire. Okay. Le paysage, ça a souvent été renfermé dans cette définition du paysage européen qui dit que le paysage est affaire de point de vue. Oui. C'est la partie d'un pays perçue par un spectateur, un habitant.
C'est un peu une mise en scène, en fait.
C'est une mise en scène. Et du coup, ça a participé un peu à figer, à donner la place du paysage comme décor, alors que finalement, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus que ça. Enfin, François Julien, par exemple, qui est philosophe, dit que le paysage, il s'appuie sur la définition du paysage en Chine, qui dit que le paysage, c'est les montagnes et les eaux, et donc qui parle, en fait, de la mise en tension d'éléments qu'est le paysage.
Le paysage, c'est plus des flux que de que simplement un décor posé pour la beauté du pour le repos des yeux des spectateurs. On voit plus, ils voient plus comme ça, comme un flux.
Ils voient ça comme un espace d'expérience, de tension entre des éléments dynamiques, des éléments fixes. Et en fait, en cela, le paysage devrait être une composante principale de la manière de faire la ville. Puisque aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de villes ont été produites de manière hors sol, finalement, en se déconnectant de leur territoire, à travers des programmations qui étaient parfois sectorisées, qui ont donné lieu, par exemple, aux zones d'activité Telmontière, qui sont des zones où on a rassemblé toute l'activité industrielle.
On s'est dit, on va mettre les industries d'un côté, c'est SimCity, quoi. On met les industries d'un côté, les résidences de l'autre, et on ne fait pas attention au territoire.
Tout à fait. Et encore, en fait, ce qui, à Amiens, à la base, ce site à Montières, il y avait l'activité textile qui s'est appuyée sur les ressources propres de ce territoire, les ressources hydrauliques, les ressources végétales. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les zones d'activité sont monofonctionnelles et les activités qui arrivent n'ont aucun lien avec les territoires qu'elles habitent.
Le sol est neutre. Le sol, c'est ce que vous. Alors j'ai noté un peu le discours que vous tenez. Vous vous opposez. Vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation que le sol est neutre et qu'il est juste un support pour le développement d'activités.
Tout à fait.
Le sol a une épaisseur.
Mais le sol est en fait un des critères fondamentaux pour la soutenabilité, la durabilité d'un territoire, puisque aujourd'hui on se rend compte que un des gros problèmes des villes, c'est qu'il y a des gros problèmes de délocalisation des industries, puisqu'elles n'ont aucun lien avec leur territoire. Finalement, les activités peuvent être un point T comme un point X, enfin, elles n'ont plus de lien avec le territoire précis. Or, on se rend compte aujourd'hui qu'à travers les problèmes de changement climatique, d'inondations récurrentes, de manque de ressources, de sécurité alimentaire, etc., que finalement, le sol, c'est beaucoup plus qu'un simple support, une simple surface.
Mais en fait, j'aimerais juste, je me permets de
vous poser
rapidement une question. Comment est-ce que vous êtes arrivé de cette vision du sol, alors qu'à la base, je rappelle que le thème de Europan 14, c'était la ville productive? Alors on pense d'entrée, je pense plutôt à comment mettre de l'industrie en ville, etc. Et vous arrivez avec cette vision du sol. Alors comment est-ce qu'on arrive dans la démarche, on va dire, de jeune professionnel que vous êtes, comment on passe de la ville productive à, on va proposer un sujet où le sol sera au premier plan?
Parce que le sol, en fait, par essence, est un des éléments les plus productifs de la ville, pourrait être une des sources premières de productivité de la ville. Et en fait, on n'a pas découvert ça tout seul. Finalement, c'est un architecte qui a mis cette question sur la table, qui est Bernardo Zecchi et Paola Vigano, qui ont écrit ce livre qui est « Le sol des villes ». Et qui justement ont traité de cette question manifeste qui est de dire, on a construit de plus en plus les villes hors sol, comment on revient au sol. Et finalement, le sol, c'est cet élément qui est capable de réguler l'eau dans la ville, de produire de l'alimentation, de l'énergie. C'est une ressource oublié des villes et qui est pourtant fondamental.
Et c'est ça, et en fait, vous avez présenté cette vision du sol à la ville d'Amiens qui n'y avait pas forcément pensé un parallèle, et c'est pour ça que, c'est, que vous avez en fait été lauréat de ce concours à Amiens. C'est en faisant voix, en montrant une ressource à la collectivité, montrant le sol comme une ressource alors qu'elle n'y pensait pas. En fait, vous avez un peu ouvert les yeux de cette collectivité d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ?
Tout à fait. Et bon, d'une certaine manière, c'est aussi que le territoire d'Amiens était très intéressant sur cette question, puisque la ville d'Amiens a toujours été, enfin, une ville qui est sortie de son sol, enfin, qui a pris sa richesse dans son sol, puisque c'était un territoire très jardin. À travers les ortillonnages,
par exemple.
Tout à fait.
On l'appelle la Venise Picarde, il me semble.
Tout à fait. Et finalement, on est passé vraiment d'un territoire jardiné à un territoire exploité qui s'est petit à petit déconnecté de cette ressource.
Ce serait un retour aux sources, du coup.
Ce serait une sorte de retour à une intelligence du territoire, à ses caractéristiques, puisque l'idée du paysage et du territoire, c'est pas de dire qu'il y a une recette, mais de dire que chaque site est porteur de potentiel et de ressources qui lui sont propres. Et c'est comme ça qu'on envisage de faire la ville.
Et aujourd'hui, donc vous avez été lauréat l'année dernière, si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait.
Alors aujourd'hui, vous en êtes où, où on en est sur Amiens? Est-ce que la ville va relancer une consultation ou...
Écoutez, comme le temps du concours, le temps post-européen est un temps assez long, qui est marqué par des temps de pause et des temps d'activité. On a réalisé un workshop dans la ville d'Amiens avec les deux autres équipes sélectionnées.
Ah oui, le workshop post-concours.
Post-concours auprès des élus, où on a présenté finalement nos démarches, on a fait une balade urbaine dans Amiens pour présenter les différentes démarches. Et aujourd'hui, la ville est très enthousiaste, mais la question se pose encore de savoir sous quelle forme on va continuer le concours et sous peut-être une forme de remise en concurrence des trois équipes sur différentes thématiques. Tout ça, c'est des choses qui normalement devraient être lancées en 2019.
Merci beaucoup. J'ai une question un peu ouverte à tout le monde. Dans l'introduction de notre table ronde, on a entendu Alain Mogard, qui est président d'Europan en France, dire quelque chose que je trouve très intéressant. Il dit « Europan, c'est un concours où on peut gagner en répondant à côté de la question ». En fait, en affirmant même que la question était mal posée. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce que ça vous inspire à l'une et à l'autre, ce genre d'affirmation, parce que je trouve ça assez particulier. Si on peut dire, non, mais votre question, je suis désolé, elle est nulle, moi je vois le territoire comme ça. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quelqu'un veut se lancer?
Bah, je veux bien commencer.
Allez-y, madame.
Oui, parce qu'en fait, on fait des cahiers des charges toujours très ouverts. C'est-à-dire qu'on exprime un désir déjà de la collectivité de commencer à réfléchir. C'est-à-dire que ce n'est pas un cahier des charges de maîtrise d'œuvre.
Ce n'est pas un cahier d'orientation architecturale et paysagère. Quoi. C'est
pas du tout, ni de maîtrise d'œuvre.
Oui,
hein. C'est un concours d'idées. Et donc, c'est pour ça que c'est long aussi le temps que nécessite finalement de se mettre d'accord sur un propos. Un propos qui sont en général des questions, de plus en plus. Ça commence par des questions.
Quel type de question ça va être?
Eh bien, comment on peut faire en sorte que, par exemple, le public et le privé puissent se rencontrer autour d'un projet commun? C'est des questions de processus de projet, c'est des questions, mais c'est aussi des questions parfois assez directes et assez opérationnelles. Comment désenclaver tel quartier, comment améliorer la qualité de l'espace public, comment rendre les berges accessibles.
À chaque fois, on pose une question ouverte, c'est vraiment comment...
Il y a des dossiers où ce sont une somme de questions et qui expliquent pourquoi on pose la question. Voilà. Donc après, on explique le contexte, on réexplique, on donne des informations assez factuelles de qui habite là, qui utilise l'espace, qui vient travailler là, etc. Et puis ensuite, et souvent d'ailleurs, ce temps-là de cette année-là, où on va réfléchir sur un dossier de site de façon à le peaufiner et le mettre au point pour le lancement du concours, il va de pair avec la taille du site. C'est-à-dire que par exemple, si on parle d'Amiens aujourd'hui, on avait ce qu'on appelle un très grand site.
On avait un site particulièrement étendu à Amiens.
Très étendu, parce que forcément, il interrogeait le paysage. Un site très bétonné, très...
très fractionné, il me semble. C'est un site
il est fractionné, il est surtout divisé d'enclaves.
Des enclaves qui étaient
fermées les unes par rapport aux autres.
Peu poreuses, en fait.
Absolument, c'est ça.
Des barrières entre différents secteurs qui composaient le site. Ouais.
Et puis, une histoire de ce site. Hein, des entreprises privées qui ont fermé du jour au lendemain avec... une délocalisation dans les années 80 et qui parfois, depuis les années 80, sont des friches et des friches qui se sont dégradées. parce que bloqué par un statut...
Sur lesquels la puissance publique a peu de prise, parce que il faut...
Elle en a plus dès lors qu'elle a choisi de ne pas en avoir. Enfin, oui, voilà. Après, ça, c'est une histoire aussi du foncier, c'est assez complexe. Mais il y a aussi d'ailleurs des projets qui rebondissent, puisque une des surfaces, une des friches à Amiens, par exemple, eh bien, et c'est au tribunal aujourd'hui, et la ville, et on passe, ou la métropole, de racheter cette emprise qui s'est dégradée,
oui,
parce qu'elle est propriétaire de gens qu'on ne connaît plus, qui sont des fonds de pension. Enfin,
voilà. C'est l'histoire qui se répète dans pas mal de territoires en désindustrialisation. L'histoire se répète.
Voilà. Alors évidemment, le public ne pouvait pas tout racheter. Enfin, il faut voir l'immensité de ces emprises.
Ça coûte très cher à la puissance publique. Il faut savoir qu'il faut dédommager un propriétaire. Et même si le terrain peut avoir une valeur négative, parce qu'il est pollué ou quoi, parce que en tout cas, la puissance publique doit racheter, doit dédommager le propriétaire d'un terrain, même si celui-ci est pollué.
Voilà. Alors on voit qu'il y a beaucoup de potentiel quand même. C'est-à-dire que on n'est pas du tout dans un terrain qui est laissé à l'abandon.
Verrouillé.
Enfin, un quartier laissé à l'abandon, il a pris de la valeur, puisqu'il est quasiment maintenant
proche,
en centre-ville.
Très proche du centre-ville d'Amiens.
Et puis, en plus de ça, il a de la valeur parce qu'il se trouve qu'il est au bord de la rivière, que de l'autre côté de la rivière, il y a des jardins. Enfin, on voit cette rencontre entre un passé industriel qui a peu tenu compte de la... Voilà, c'est un sol artificiel qui a été artificialisé. Et puis, maintenant, une ville qui devient très attractive parce qu'il y a justement la présence de l'eau, la présence des jardins, etc.
Oui.
Donc on est dans des oppositions aujourd'hui, c'est assez complexe, et c'est aussi la question qu'on posait à Amiens, comment est-ce qu'on peut finalement mener un projet d'ensemble avec beaucoup de parcelles qui sont privées. Donc comment est-ce qu'on fait pour amener...
Comment s'ouvrir au privé, comment faire un projet...
Comment le privé, on peut l'amener dans des intérêts publics.
À faire la mutation urbaine. Christine Bulot, vous vouliez réagir sur cette question, j'ai l'impression, du concours, on peut gagner sans répondre à la question. Alors,
je suis curieux d'avoir l'avis de la collectivité. Pour ce qui nous concerne à FOSS, je ne dirais pas que la question de départ nous aurait été renvoyée comme mal posée. Par contre, l'expérience que nous en avons eue a reposer des questions que nous ne nous posions plus.
C'était des questions que vous nous posiez comme quoi comme question?
Par exemple, le site dont il est question est un site chargé d'histoire, et au cours des 30 dernières années, le travail des archéologues a mis en lumière tout ce patrimoine, et donc on avait l'impression de connaître l'histoire du site. Et l'équipe Repens a réinterrogé toute l'histoire. Alors, non pas l'histoire de l'archéologie, mais entre tout ce patrimoine archéologique dont on parlait, et puis l'histoire depuis de ce site,
l'histoire récente, en fait.
L'histoire des 20 siècles depuis... On a revisité tout ça avec ce travail autour de la Terre. Je suis très sensible à ce qui vient d'être dit par notre ami paysagiste, parce qu'il y a eu aussi tout un travail sur la question du patrimoine naturel et de la Terre. Et des circuits d'eau, par exemple, c'est un site où il y a eu des cressonnières et une construction en fait de ce village autour de l'eau qui a été très importante. Et là aussi, il y a eu tout un travail sur l'histoire agricole, à la fois l'histoire maraîchère de ce site qui est aujourd'hui que tout le monde avait en quelque sorte oublié. Et ce travail-là a permis de refonder des choses sur les circulations, sur la manière d'appréhender
l'espace. Les réponses
apportées
par les jeunes architectes qui ont répondu à Europan sur la ville adaptable, sur FOSS, c'était des réponses auxquelles vous n'aviez plus pensé. C'était quelque chose qui était un peu, oublié dans l'imaginaire collectif de la ville.
Tout à fait, et qui réactiver chez les habitants aussi une espèce de passion et de désir par rapport au site, et qui redonnait du sens à la manière de construire quelque chose pour l'avenir. Donc ça, c'est quelque chose qui était pour nous déterminant dans une démarche aussi renouvelée dans la relation à la population. À FOSS, on avait l'habitude de démarches de concertation et on avait l'impression d'être aguerris. Et en fait, ça a été une démarche de concertation totalement novatrice par rapport à ce que nous avions l'habitude de faire.
J'aimerais bien qu'on s'arrête un peu sur ce sujet, parce qu'en introduction de nos échanges, de ce plateau, on a entendu Rasmus Frick, qui était un architecte danois de l'agence Archilab, qui a travaillé sur le site marseillais d'Europe en 12, le plan d'Aou, il me semble que ça s'appelle, et qui affirme qu'il avait apporté en fait de nouveaux angles, de nouvelles manières de faire des ateliers avec la population, notamment, si je me souviens bien, il avait apporté carrément un jeu de plateau. Un jeu de plateau où les gens pouvaient en fait participer au jeu pour décider de l'avenir de leur quartier. Et le groupement d'intérêt public de Marseille souligne que c'est vraiment une manière de faire de la concertation qui les a convaincus, à laquelle ils n'étaient pas habitués. Alors j'aimerais bien savoir ce que ça apporte en termes de concertation, parce qu'en France, on n'a pas attendu Europan pour concerter les gens avant de lancer un projet urbain. Donc qu'est-ce qu'apporte en fait ce concours en termes de dialogue avec la population ?
Par exemple, pour nous, à FOSS, nous avions l'habitude des ateliers urbains, de la co-construction presque matérielle avec architectes, urbanisme ou avec des habitants. On peut dessiner des espaces, coller, construire. Ça, nous avions l'habitude de ça. Une chose dont nous n'avions pas du tout l'habitude et qui a été très très forte, c'est la logique de la balade dans la campagne pour retrouver des cours d'eau, des espaces paysagers que personne ne voyait plus.
C'était caché dans la carte, en fait. C'est révéler le territoire, en fait.
Révéler complètement le territoire et à partir de là, son histoire et son évolution dans le temps. Par exemple, sur le site du village, il y a une rivière qui a une histoire importante et qui aujourd'hui est inaccessible à pied. D'accord. Et en faisant parce que juste il y a des propriétés privées. D'accord. Qui font que
on peut pas y arriver.
Ce travail-là, on a découvert avec la population et qu'il y avait des enjeux autour de l'accessibilité de cette rivière et de la place de cette rivière au niveau de l'histoire aussi, qui était fondamentale. Et découvert des passages qu'on pouvait faire vivre ensuite et qui permettent des accessibilités du territoire complètement renouvelées.
D'accord. C'est ce qui a permis au Repens. Ça a permis à la population de la ville de Fos de se réapproprier un peu ce territoire. Est-ce qu'on peut dire ça ?
Oui. Et pour moi, il y a une ouverture sur quelque chose qui est extrêmement contemporain et que nous n'avions pas porté au départ en termes de vision. C'est la question de la réintroduction de la nature et la place de la terre, hein, comme vous l'évoquiez, dans la construction du projet.
Est-ce que vous pouvez développer ça, le rôle de la terre, du coup, ça ressemble à...
Eh bien, précisément, le fait de retrouver le sens de l'histoire et de l'évolution du paysage, du point de vue de son écologie, qui permettent à ce moment-là de construire le projet d'habitat, les activités à partir de là.
À partir du terrain.
Et ça, c'est aussi porteur de sens et de, je dirais presque de désir. Ça, c'est quelque chose qui nous a frappé. Aujourd'hui, par exemple, on travaille sur la ville à des ateliers qui s'appellent FOSS 2030, et là, qui réunissent des habitants de toute la ville. Et les éléments qui surgissent en premier, c'est les éléments liés à la nature en ville, à la mobilité. Et moi, je suis absolument convaincue que cette expérience de Repan a nourri quelque chose qui fait force dans la mémoire des habitants pour l'ensemble de la ville et qui nourrit ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à l'échelle de la ville.
Ça a permis de donner de l'épaisseur un peu au territoire. Quel rapport vous avez eu, vous, Agnès Jacquin, avec non seulement le terrain, mais avec les populations pendant... quand vous avez répondu sur ce terrain d'Amiens, sur ce site d'Amiens, même si c'est un site où il n'y a pas beaucoup d'habitants, d'une certaine manière.
Au final, ça reste un site qui est très habité, parce que, comme disait Isabelle Moulin, tout autour, il y a beaucoup d'activités.
Les activités, pas forcément des habitants.
Des habitants aussi. D'accord. Qui habitent en frange, la ville est très proche, il y a des jardins qui sont proches également.
Quelle vision Quels étaient vos rapports avec les gens? Ils vous voyaient débarquer et vous leur disiez quoi? Comment ça se passait? Je suis très curieux.
Pendant le temps du concours, l'idée, on ne doit pas forcément vraiment se mettre en relation avec les habitants, etc. Notre démarche, elle part beaucoup d'expérimentation sur le terrain. Donc on a passé vraiment une semaine avec toute l'équipe où à vélo, on a été d'Amiens jusqu'en baie de Somme, on a fait beaucoup de tours de la ville, on a suivi les canaux, on a rencontré des gens à qui on a posé un peu des questions sur la manière qu'ils avaient de vivre sur ces territoires, etc. Mais on n'a pas cherché à construire le projet directement avec les habitants. D'accord. À ce moment-là.
Mais vous vous êtes nourri un peu de ce discours, de leur vision en tout cas.
Bien sûr, mais surtout notre démarche c'était de dire que cet appel à l'idée, c'était le moment de faire une proposition, mais pas forcément un master plan figé. Ce qu'on souhaitait dire, c'était qu'on proposait un processus.
Plus un concept peut-être.
Un mode de faire, une méthodologie, en disant que dès demain, on avait des leviers où on pouvait agir et que ces leviers, on pourrait les activer qu'avec la participation de la population.
Ouvrir un peu le champ des possibles avec la population.
Tout à fait. Et c'est là où je pense que par rapport à votre question, ce qui change par rapport à une concertation habituelle
même un atelier urbain avec des gens, qu'est-ce qui change? Oui.
On est des fois dans des choses qui sont un peu dématérialisées parce qu'on est en salle ou quoi que ce soit, alors que là, on est vers un retour sur le terrain, l'expérience vraiment, et sur des modes de faire. Et ça peut être appréhender le terrain par la marche, mais après ça peut être aussi des chantiers participatifs en tant que tels pour construire en mobilisant d'autres champs qui peuvent être les champs artistiques, de la performance, etc.
Ça serait construire avec la population. Ça se développe de plus en plus, on voit. D'ailleurs, c'est ça où on voit que Europan est vraiment à un côté un peu labo, un peu un côté incubateur, parce qu'aujourd'hui, ce qui pouvait passer pour une utopie, le chantier participatif, ça existe, on le voit à Paris. Maintenant, ce sont des choses qui se sont diffusées un peu dans le projet urbain plus normal. Donc peut-être, avant de conclure nos échanges, est-ce qu'on peut dire que Europan a développé des solutions qui sont maintenant, aujourd'hui, se diffusent dans la fabrique urbaine normale, de type chantier participatif, Isabelle Moulin?
Alors, oui, alors nous, on est quand même un concours d'idées. C'est-à-dire qu'ensuite, il faut passer un temps assez long, souvent. Le concours est anonyme.
D'accord. Hein,
c'est pas un concours où, pendant le jury, il n'y a pas d'audition, etc. Et c'est très bien parce que sinon, on se demande si on aurait des très jeunes équipes qui émergeraient, en fait. Ça permet à des équipes...
Ça permet vraiment de sélectionner sur une idée et pas sur un...
Exactement.
Et pas sur une marque.
Et en tout cas, pas sur des références, ouais. Ou pas sur une façon de parler.
C'est ce que me disait un jeune architecte. Il me disait, c'est vraiment une des seules manières d'accéder à la commande quand on sort de l'école.
Absolument.
Sinon, on n'a pas de book, on n'a pas de réalisation, on sort de l'école et on peut accéder à des commandes qui sont quand même...
Voilà. Donc on a des nouveau-nés, comme parfois on a des seniors aussi qui gagnent, après des années d'agence aussi.
C'est limité au moins de 40 ans.
Au moins de 40 ans, voilà. Et donc j'ai oublié la question, pardon.
La question c'était, est-ce qu'on peut dire que c'est un incubateur? Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui a été développé dans Europan, vous le retrouvez dans des projets plus normaux?
Oui, bien sûr. Alors comme je disais tout à l'heure, soit on devance, soit on suit en fait.
Oui, hein, c'est ce que vous disiez au début.
Voilà, il y a une tendance, c'est pas forcément où est l'innovation. Hein, on peut se poser la question, où elle est l'innovation finalement? L'innovation, c'est aussi toute une façon de faire, de mettre en œuvre aussi des idées avec une équipe. On va, après le concours, faire se correspondre des idées, des personnes, et faire dialoguer aussi toutes les personnes et les équipes elles-mêmes avec leurs idées. C'est-à-dire qu'il faut que tout ça devienne une synergie et permette la mise en œuvre. Je vais quand même dire qu'il nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, les architectes sont formidables, les élus sont souvent très bien, ils ont des idées, ceux qui viennent à Europan en tout cas. Et puis d'autres, on espère qu'on n'a pas encore rencontré.
Qu'est-ce qui vous manque?
Les services des villes sont bien, même s'ils sont parfois très débordés aussi, parce qu'ils sont de moins en moins. Il nous manque des promoteurs, il nous manque des gens qui viennent pour expérimenter. Pourquoi est-ce qu'il y avait de l'expérimentation de la part des promoteurs et des maîtres d'ouvrage? C'est qu'il y avait des financements de l'État aussi. Au début du PAN, c'était ça. Le projet du PAN qui était entièrement... Le début d'Europan aussi. Hein, il y avait des financements
d'État. Et aujourd'hui,
directement auprès
il y a
des bailleurs, etc.
Pour financer l'innovation.
Il faut aller les trouver, il faut aller les chercher.
Et
du coup, il faut des partenaires. Il faut aller chercher des partenaires, des gens qui veulent bien venir pour rejoindre cette table,
ce laboratoire
pour eux aussi expérimenter. Donc c'est vraiment un appel.
C'est
aussi
un appel. J'espère que votre appel sera entendu à l'expérimentation. Merci à vous trois. Merci Isabelle Moulin, merci Christine Bulot, merci Agnès Jacquin de nous avoir rejoints pour cette première table ronde autour de Europan Visionnaire. On se donne. Merci à vous d'être resté avec nous. On se donne rendez-vous dans un quart d'heure pour le prochain plateau, sur Europan Mentor où on parlera justement d'innovation. Donc merci de m'avoir mâché ma transition, Isabelle Moulin. Et à très bientôt. Merci.
Merci beaucoup.